Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le magazine Femina de VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge pour vous présenter le magazine au féminin que vous pouvez également écouter en différé sur notre site internet voaafrique.com. L'esclavage perdure en Mauritanie, malgré les lois qui le criminalisent, notamment celui des petites servantes placées chez les anciens maîtres dès l'âge de 4 ou 5 ans. On les appelle corgelles. Dans son étude « Figures de servitude, les petites servantes à Kaedi », le sociologue Camara Ousmane affirme que le phénomène d'esclavage domestique touche toutes les tribus et ethnies de Mauritanie. Je vous propose d'écouter une discussion avec le président de l'IRA Mauritanie, Biram Da Abeid, militant anti-esclavage de longue date. Monsieur, c'est un honneur de vous avoir à la Voix de l'Amérique. Merci beaucoup d'être avec nous,
vraiment,
pour parler de votre longue lutte, n'est-ce pas ? Une très longue lutte. Alors, l'application des lois. Il y a une loi en 2015 qui a pénalisé l'esclavage. Sachant que l'esclavage est interdit depuis 81, mais n'était pas pénalisé en fin de compte. Il y a eu la journée internationale contre l'esclavage. Malgré tout, est-ce que selon vous, ces efforts sont de réels efforts ou est-ce que cela est simplement une sorte de vitrine pour montrer qu'on lutte contre l'esclavage?
Vous avez vu juste, il n'y a pas eu de procès. Il n'y a jamais eu de procès, il y a eu des simulacres de procès, toujours dans le cadre de la politique de verser la poudre aux yeux de la communauté internationale. Ça reste toujours dans le cadre de narguer la communauté internationale, de narguer le droit international. Parce que avant la loi de 2015, la criminalisation avait lieu en 2007, mais cette loi n'a jamais été appliquée. Et la loi de 2015 n'a jamais été appliquée aussi.
Toujours pas appliquée.
Toujours pas appliquée parce qu'elle stipule que le crime d'esclavage est sanctionné par un minimum de 10 années de prison. L'esclavage, c'est l'affaire des personnes influentes, des personnes dans le gouvernement, des personnes de la haute société. C'est eux qui pratiquent l'esclavage dans ses formes les plus dures. Ces personnes qui ont été sélectionnées, c'est des personnes qui ne sont pas influentes, pas connues. Parmi des centaines de dossiers d'esclavage, et ces personnes ont été condamnées seulement à une année de prison.
Vous êtes vous-même descendant d'esclaves, n'est-ce pas? Dites-moi si je me trompe. Votre papa a été affranchi par le maître de votre grand-mère, c'est cela?
Dans le ventre de sa mère.
Donc, aujourd'hui, on a l'habitude de parler d'esclavage contemporain. Aujourd'hui, quel est l'état de l'esclavage? Est-ce que vous auriez des exemples à nous citer, notamment de femmes et de jeunes filles dans cette situation?
Il y a toutes sortes d'exemples de pratiques esclavagistes en Mauritanie. Il y a l'esclavage par ascendance. L'esclavage par la naissance, des hommes, des femmes naissent esclaves.
Et on dit bien que c'est illégal ça aujourd'hui, sur le papier, dans la loi.
Illégal sur le papier, mais toujours légal dans le code noir, le code d'esclavage que l'État mauritanien et les groupes dominants qui pratiquent l'esclavage en Mauritanie appellent encore la charia islamique. Elle est toujours en vigueur en Mauritanie. Elle est la principale source de loi selon la constitution mauritanienne et ces codes noirs, ces livres esclavagistes, ces livres obscurantistes continuent toujours à côtoyer les lois modernes et continuent toujours à supprimer les lois modernes en cas de conflit, car la Constitution stipule que ces lois sont supérieures au droit national et aux conventions internationales. Il y a aussi l'esclavage agricole, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de paysans qui ont toujours vécu de la terre. L'État les a spoliés de leur terre en enregistrant la terre au nom de leurs anciens maîtres. Donc, en transformant ainsi toutes les terres cultivables habitées par les Noirs, par les Haratines, en zone de servage moderne.
L'esclavage domestique également, des jeunes femmes, des jeunes filles?
Oui, l'esclavage domestique des jeunes femmes.
Est-ce que vous avez défendu des cas comme ça, justement?
On a toujours défendu des cas de ce genre. On a même défendu le cas des femmes qui sont vendues comme esclaves dans les pays du Golfe.
Mmh.
Et on en a plusieurs exemples. Mais toutes ces tentatives de faire condamner ces filières...
Donc ça, c'est des filières.
C'est des filières où toutes les tentatives pour condamner les esclavagistes nationaux, toutes ces tentatives ont échoué car l'État est là avec tous ses compartiments judiciaires, sécuritaires, administratifs et politiques pour protéger les criminels.
À ce niveau-là, au niveau des filières, hein, on parle de personnes humaines qui sont vendues. Est-ce que vous avez le soutien déjà, ou vous envisagez, ou en tout cas maintenant que vous êtes en contact avec les États-Unis, peut-être d'avoir un soutien au niveau des investigations, au niveau des moyens pour arriver à prouver ce type d'affaires extrêmement graves,
oui,
et contre l'humanité ?
On a parlé avec les responsables, longuement avec les responsables du ministère de la Justice des États-Unis d'Amérique. Et ils nous ont éclairer sur toutes les hypothèses et les possibilités qui peuvent amener les États-Unis d'Amérique à entamer une poursuite et des investigations contre ces criminels. Pour le moment, je tiendrai un peu au secret les plans d'action et de coopération avec la justice américaine qu'on va entamer dans ce domaine.
Dernière question, Monsieur Biram Dai Abed. Pourriez-vous nous dresser un plan de la situation des femmes, justement, des femmes haratines, des femmes noires qui sont dans des situations comme ça en Mauritanie? Est-ce que c'est une situation vraiment critique?
Je voudrais parler d'un cas ou deux. Le cas d'un Barkhamet Essatine qui est victime d'esclavage depuis sa naissance, qui est né esclave, propriété d'un homme qui a commencé à la violer, qui l'a séparé avec sa mère dès l'âge de 5 ans, qui a commencé à la violer dès l'âge de 10 ans, qui lui a donné deux enfants dans le cadre de ce viol. Et après, le fils de ce même homme a commencé à la violer, puisqu'elle a eu aussi un enfant avec lui, toutes des filles.
Mm-hmm.
Et cette femme qui est meurtrie dans son corps, dans son âme, nous l'avons aidée à se libérer. On a porté plainte, mais les autorités supérieures en Mauritanie refusent d'atteindre cet homme, car il a des liens familiaux avec les hautes autorités de l'État. C'est un homme d'affaires riche et il a même été élu député. Et Barkhamet Essatine court toujours derrière la justice. Et l'État mauritanien refuse de lui octroyer la justice. Je veux dire que ce cas n'est qu'un seul cas parmi des milliers d'autres cas. Et c'est des cas que nous ne lâcherons jamais jusqu'à ce que la justice soit faite.
Merci beaucoup,
Biram
Dai Abed.
Merci.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Au Bénin, les femmes espéraient qu'avec la rupture prônée par le président Patrice Talon, elles obtiendraient plus de postes dans les ministères et autres instances décisionnelles, mais il n'en a pas été ainsi. Seulement 3 femmes sur 21 ministres, Rafiatou Monrou, Marie-Odile Atanasso et Hadidjatou Matisse, respectivement à la communication, à l'enseignement supérieur et la recherche et au ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales. Notre correspondante Ginette Fleur-Adandé à Cotonou nous en dit plus sur le sentiment de la société civile.
De plus en plus, ça grogne dans le rang des femmes leaders responsables d'associations intellectuelles dans leur domaine de compétences. Si à Boniaï, les associations de promotion de la femme ont reproché une politique qui accorde peu d'importance à la femme, elles fustigent le gouvernement Talon qui, sur une équipe de 21 membres, n'a accordé que quelques places aux femmes. Pour Marielle Degboué, présidente du Roi Gelfe Bénin, réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, cette situation tire plus son essence du manque de volonté manifeste des femmes à se faire une place de choix en politique.
Pour nous, l'absence des femmes aux instances de décision, c'est beaucoup plus le manque d'implication dans les initiatives. Vous savez, les femmes n'aiment pas faire de la politique. Lorsqu'il est question de politique, elles se préfèrent toujours en dessous. Il faut que les hommes soient en avant et puis elles derrière. C'est normal. Lorsque l'on sait aussi que les réunions politiques sont des réunions nocturnes, les femmes devant être à la maison maison, mais nous faisons partie de ces personnes qui continuent de croire que ces petites raisons-là ne devraient pas être des motifs de retrait des femmes au niveau des instances, parce que la compétence, il y en a au sein des femmes. Il faut juste un peu plus de courage, un peu plus d'engagement et que l'on n'ait plus peur d'afficher sa position.
Pour Sarah Idoho, activiste financier de formation, même avec leurs compétences, la tradition et la culture seront toujours des obstacles pour l'épanouissement du genre.
Est-il si difficile de trouver des femmes compétentes au Bénin au point où on note cette faible représentativité du genre? Personnellement, je ne pense pas. Je pense plutôt que cette faible représentativité s'expliquerait par nos pesanteurs socioculturels qui pèsent toujours plus dans une partie de la balance.
Le sociologue Amouleroi Mouzouvi trouve, lui, que tel que mené le combat pour que les femmes accèdent à des postes de responsabilité resterait un fiasco. Et pour cause.
Il n'y a pas à infantiliser la femme en disant, puisque vous lui avez fait ça hier, aujourd'hui, permettez-lui de faire ci, de faire ça. Non, c'est un problème purement humain, c'est un problème purement social, et il faut responsabiliser la femme. C'est-à-dire qu'elle prenne le destin en main, qu'elle travaille, et non, qu'elles attendent une hypothétique compréhension pour dire, c'est quand même une femme. Le problème n'est pas de dire 50%, 50% parité.
Mais tout n'est pas perdu. Pour le moment, l'Institut de la femme n'a pas été supprimé par le chef de l'État, et les femmes espèrent que le gouvernement de la rupture ne pousserait pas le bouchon jusqu'à un tel niveau. De Cotonou, Ginette Fleur Adamé pour VOA Afrique.
Au Cameroun, des magistrats et députés informent les veuves sur leurs droits. Beaucoup n'ont pas accès à l'héritage des biens de leurs défunts époux et certaines pratiques cruelles et humiliantes persistent à leur encontre. Voici un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
Cette musique de l'artiste camerounais Tanus Foué invite la population à respecter les veuves. Parmi celles sollicitées pour expliquer leur situation, Christabel Nzié, âgée de 36 ans, est mère de 4 enfants. Leur maison conjugale a été confisquée par le frère de son défunt mari depuis 6 ans.
Mon mari était mort de suite à un accident de circulation. Et depuis qu'il est décédé, je suis abandonnée à moi-même. Les enfants vont à l'école, je me débrouille, j'ai une petite boutique à la maison qui ne tourne vraiment pas à merveille. Il y a d'autres veuves qui sont pauvres et d'autres qui n'ont même rien. Si tu croises encore les bras, ça ne peut pas donner.
Christabel vend dans une petite boutique chez elle pour pouvoir payer les dettes de son mari, subvenir aux besoins de ses enfants et les envoyer à l'école. Elle a appelé au secours sa fille Alvin Ngoubou, âgée de 9 ans, qui vend les beignets dans les rues au retour des classes.
Je suis venue vendre pour l'argent de ma mère. Cet argent lui sert à rembourser ses dettes de réunion et me donner un peu d'argent pour commencer à cotiser pour ma liste de fournitures. Il y a d'autres tontons qui courent vite qu'on appelle bâton. Ils cherchent à bousculer tout le monde pour vite vendre.
Le Cameroun compte 300 ethnies et une abondance de pratiques qui vont à l'encontre des droits de veuve. Par exemple, beaucoup n'ont pas accès à l'héritage des biens de leur mari après leur décès. Certaines pratiques exigent à la veuve de se coucher au sol pendant 2 semaines ou encore de boire l'eau du cadavre comme preuve de leur innocence. Maître Edouane Goum demande aux Camerounais d'être conscients des droits des femmes.
Les femmes doivent savoir qu'à la dissolution de leur mariage par le décès de leur conjoint, si elles étaient mariées sous le régime de la communauté, elles vont demander la liquidation de la communauté de moitié. Les héritiers de leur mari, que ce soit des enfants qu'il a eus hors mariage, mais qu'il a reconnus, ou que ce soit les ascendants, ou que ce soit les collatéraux, ne vont hériter que de la moitié qui devait revenir au mari s'il avait été vivant. Les articles 20 et suivant du protocole de Maputo, invite clairement les États parties, dont le Cameroun, à tout faire pour combattre les rites. Expressement, on parle des droits de la veuve. C'est très important. C'est le premier instrument régional qui parle spécifiquement des droits de la veuve. Il s'agit des atteintes à l'intégrité physique.
Le ministre camerounais de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena Ondua, dit que ces pratiques ne respectent pas les femmes et fait appel aussi à la conscience.
Les administrations avaient prévu beaucoup de choses, mais il n'y avait pas une diffusion de ce qui était prévu par l'État. Donc, par exemple, certaines veuves ne savaient pas que nous disposons des structures même qui pouvaient les écouter. Et nous avons une cellule juridique qui peut répondre, les aider à trouver des solutions à certains de leurs problèmes.
La Fédération internationale des femmes avocates annonce que malgré toutes les lois et conventions ratifiées par le Cameroun, il reste encore beaucoup à faire pour promouvoir les droits des femmes et surtout ceux de veuves. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Entre parenthèses, vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Alors que les attentats revendiqués par le groupe État islamique se multiplient, les gouvernements poussent les communautés à s'impliquer davantage dans la prévention contre la radicalisation et l'endoctrinement des jeunes. À ce propos, voici un entretien avec l'imam Papam Boup, qui apporte également un éclairage sur les femmes dans l'islam.
Je pense qu'il faut récupérer les jeunes. Sache que ce qu'on appelle le djihad, ce n'est pas le djihad. Le djihad en arabe, ça veut dire un effort. Mmh. Un effort qu'on fait, non seulement pour se rapprocher de Dieu, mais surtout pour tuer l'ego, comme on dit, la passion, les ambitions qui entravent notre marche et notre communion vers Allah. Donc le crime est une chose qui est prohibée dans l'islam. Et je pense qu'il faut récupérer les jeunes, il faut en parler, il faut les sensibiliser. L'islam ne recommande jamais à qui que ce soit de faire des actes criminels. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'avoir des prêches, c'est d'amener les gens à la raison, les gens d'abord, et de créer des instruments par lesquels les jeunes pouvons prendre conscience de leur rôle en tant qu'individus humains. Il faut les humaniser en quelque sorte, il faut humaniser les gens. Il y a des jeunes qui se sentent opprimés par le système, des jeunes qui sont désœuvrés, d'autres qui sont pris par la politique politicienne, comme on dit. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entraînent les jeunes à être dans ce genre d'activité. Mais je pense qu'il faudrait un effort communautaire, aussi bien par les gouvernants que par les parents, par les chefs religieux, par des groupes sociopolitiques, pour essayer de décourager les jeunes et leur faire savoir que l'islam n'est rien d'autre que la paix. L'islam condamne la criminalité parce que la vie humaine est sacrée.
Imam Papam Boup, vous êtes soufi. Comment expliquez-vous qu'il y a un tel fossé entre le soufisme, cet islam-là, et ces gens-là dont vous avez parlé qui nourrissent le terrorisme?
C'est difficile à expliquer parce que c'est dommage, ils ont beaucoup d'argent. Voilà pourquoi ils peuvent facilement égarer des jeunes qui n'ont rien, des jeunes qui se sentent opprimés, ils les endoctrinent. Nous les soufis, ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons, nous sommes organisés. Nous visitons certains pays où il y a une haute influence wahhabi.
Mais alors vous avez certainement eu l'occasion de vous retrouver en face de jeunes terroristes potentiels et de leur parler les yeux dans les yeux, n'est-ce pas?
Absolument, dans notre sermon, on parle de ça parce qu'on sait que tout le monde peut être menacé. Tous les jeunes peuvent en un jour être vulnérables à ce genre d'activité, donc on leur parle. Et puis on visite des familles à Washington, on parle aux gens qui puissent éventuellement être des éléments vulnérables pour leur dire que l'islam, ce n'est pas la violence.
Et qu'auriez-vous à dire à certaines personnes qui maltraitent les femmes et les filles et les enfants au nom de l'islam?
Ça, c'est anti-islamique. Une personne qui ne prend pas soin des femmes n'est pas un bon musulman. Un croyant, c'est celui qui respecte tout le monde et surtout sa famille. Toute personne qui appartient à la famille humaine, en quelque sorte même.
Est-ce que vous avez plusieurs épouses?
J'en ai une seule.
Pourriez-vous nous dire un mot d'une grande dame qui s'appelait Rabia?
Rabia al-Adawiya, c'est une femme qui était sainte. Une femme qui était dévouée dans son adoration et qui était un bel exemple. Donc on disait que dans sa jeunesse, il était une femme mondaine. Mais tout d'un coup, elle s'est retournée vers Dieu avec une adoration extraordinaire. Il a été un exemple durant toute sa vie dans ses gestes généreux envers tout le monde, dans son comportement envers tout le monde, envers son mari, envers la société, et une femme modeste. On a vu le cas de Mother Teresa, une femme pieuse, une femme extraordinaire aussi dans son comportement. Et dans le monde islamique également, on parle de Rabia al-Adawiya, on l'estime beaucoup par son comportement exemplaire. Et j'espère que les femmes musulmanes pourront trouver en elle un exemple patent pour être vraiment des exemples dans leur famille, dans leur foyer, dans la communauté islamique, et même au-delà.
Mais vous en connaissez des femmes qui valent cette dame d'autrefois?
Absolument, absolument, puisque vous savez que les portes célestes ne sont jamais fermées.
Est-ce que selon vous, les femmes ont plus de place en islam que dans d'autres religions?
On a vu que la première femme dans l'islam, qui était une femme d'affaires, une femme vraiment engagée dans des actions humanitaires, dans des actions commerciales, dans les bonnes œuvres, c'était la femme du prophète Mohammed, Khadija. On a vu des femmes qui sont, surtout dans ce monde actuel, si une femme peut aller à l'école, pourquoi ne pas aller à la mosquée? Les femmes rivalisent partout, dans les bureaux, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans tout.
Des jeunes femmes qui se font tuer par une foule entière. Ça arrive dans plusieurs pays du monde, ça arrive au Pakistan, en Afghanistan, et ces images sont publiées sur la toile. Tout ceci encore au nom de l'islam. Qu'est-ce que vous auriez à dire?
S'il y a une punition à infliger à une personne, il faudrait que l'État le fasse. Ce n'est pas aux gens de le faire, ce n'est pas aux communautés.
Parfois, cette personne n'a rien fait.
Absolument. J'ai fait le Pakistan, j'ai fait 10 ans là-bas. Donc, je connais la situation. Mais je veux dire que c'est l'État qui doit prendre les mesures qui s'imposent.
Et comment vous expliquez le fait qu'il y ait si peu de voix qui s'élèvent contre ce type d'assassinat en public, publié sur la toile?
Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des associations qui puissent hausser la voix contre ces genres de manœuvres. Il faudrait que les gouvernants d'abord sachent qu'il leur incombe de protéger leurs populations respectives. Mm-hmm. Par exemple, le gouvernement du Sénégal, que je connais mieux, a initié certaines mesures qui protègent les minorités, si j'ai pu dire. Et même si c'est trop dit, parce que les femmes ne sont pas minoritaires, les femmes ont des places dans le gouvernement, dans l'administration, dans l'enseignement, dans beaucoup de choses. Donc le Sénégal est un bel exemple d'émancipation féminine. Mais dans les pays où la femme se sent brisée, il faudrait qu'il y ait des mesures supportées par certains pays, certaines communautés, certaines associations qui permettent aux gouvernants de changer la façon dont les femmes vivent dans ces pays respectifs. Mais ça, il y a des problèmes internes, vous savez. Il y a des pressions au niveau de certains groupes dans ces pays-là qui font que les gouvernants, des fois, ont peur d'exécuter ou bien d'appliquer certaines mesures.
Je suis allée également au Pakistan et en Iran et je me suis trouvée en face d'hommes qui refusaient de me parler ou de me serrer la main. Est-ce que ça, c'est l'islam?
Le Coran dit, ne vous rapprochez pas de la fornication.
Oui, ça n'a rien à voir avec le fait de serrer la main à quelqu'un.
On ne sait jamais. Satan est tellement subtil dans ses démarches. Donc, pour éviter ça, l'islam ne te dit pas, ne fais pas la fornication. L'islam te dit, évite toute chose qui puisse mener à ça. Donc, techniquement, si une personne n'est pas ta femme, ta mère, ta sœur, techniquement, religieusement, on ne doit pas lui serrer la main.
Mais vous m'avez serré la main et vous me parlez.
Absolument, parce que vous m'avez tendu la main et je sais que Dieu honore l'être humain.
Alors la conclusion?
La salutation, si on va en France ou bien aux États-Unis, quand on dit « hi » ou bien « bonjour », ça veut dire
« oui, on peut comprendre que c'est des cultures absolument différentes, absolument.
Donc « salam alaikum » est une forme de salutation complète. Que la paix de Dieu soit sur vous partout où vous êtes. Serrer la main, c'est secondaire, mais l'essentiel, c'est qu'on se salue.
Merci beaucoup.
Merci, Nathalie.
Imam Papa Mboup, à très bientôt. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup.
En Gambie, le mariage des enfants est désormais interdit depuis le vote d'une loi en juillet 2016. Des précisions avec Eric Manirakiza.
Un adulte qui contracte volontairement un mariage au nom d'un enfant, qui pousse un enfant à contracter un mariage, qui aide, encourage ou participe à la célébration de toute forme de mariage d'un enfant, commet une infraction et est passible d'emprisonnement n'excédant pas 20 ans, stipule le texte. Par ailleurs, un adulte qui apprend l'existence d'un tel projet de mariage et omet volontairement de le signaler commet une infraction et est passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans, précise la loi selon l'AFP. Le projet de loi interdisant le mariage des enfants a été défendu devant les députés par la ministre de la Justice, Mama Fatima Sinraté. Il vise à décourager une pratique persistante dans notre société en criminalisant le mariage des enfants, a déclaré la ministre Fatima. Les autorités espèrent que cette loi va avoir un effet dissuasif sur les potentiels contrevenants selon elle. La constitution gambienne stipule que le mariage concerne des adultes consentants, mais aucune disposition légale ne sanctionnait jusqu'alors le mariage forcé en Gambie. Le vote de la loi est intervenu 15 jours après l'annonce devant des dignitaires musulmans le 6 juillet par le président Yahya Jammeh de l'interdiction du mariage des enfants avec effet immédiat. Quiconque épouse une fille n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans fera 20 ans de prison. Les parents de la fille feront 21 ans de prison et toute personne ayant connaissance de ce mariage et ne l'ayant pas signalé aux autorités fera 10 ans de prison. L'imam et tous ceux qui dirigeront la cérémonie de mariage seront également envoyés en prison, avait-il ajouté.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high.